Ils sont souvent représentés par la pauvreté, l'incivisme et l'insécurité. Mais la question est, y a-t-il que de mauvaises choses dans ces quartiers? Retrouvez sur Radio Veritas le magazine Mon Quartier, Mon Toit, votre magazine de valorisation des quartiers populaires. Mon Quartier, Mon Toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon Quartier, Mon Toit, les quartiers populaires vus autrement.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de la 96.fm Radio Veritas et merci d'être une fois encore à l'écoute de cette nouvelle édition de votre rendez-vous mensuel Mon Quartier, Mon Toit. Il s'agit d'une émission citoyenne produite dans le cadre du projet de promotion et de protection du droit au logement décent par l'appui à l'amélioration des quartiers populaires mis en œuvre par le CODAS Caritas Douala. Pour cette livraison, nous allons examiner la question relative au rôle des institutions décentralisées dans l'amélioration du cadre de vie des populations dans les quartiers populaires notamment. Pour en parler, nos reporters ont parcouru les rues de la capitale économique pour recueillir l'avis des populations. Écoutons-les à présent.
Mon quartier, mon toit. Les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit. Les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit. Vox Pop.
Bonjour, bonjour. Selon vous, qu'est-ce que les mairies doivent faire pour améliorer les conditions de vie des populations dans les quartiers et principalement dans les quartiers populaires?
Les mairies déjà doivent essayer de créer les récoltes parce qu'il y a plusieurs quartiers là où les récoltes sont petites et quand il pleut, il y a franchement inondation. Et moi, je parle plus pour qu'ils aillent regarder un peu le secteur de 13, 14 parce que la route, elle est franchement mauvaise et les récoltes sont petites, ce qui fait que quand il pleut, le goudron est complètement submergé parce que les chasses d'eau là sont petites, qu'ils essaient de créer des endroits, des espaces qui canaliseront l'eau et qui vont réduire les inondations de la route.
Je suis actuellement comme ça à la mairie et on a un problème, c'est que la signature des documents nous prend beaucoup trop de temps. Aussi déjà, même au niveau de la mairie, on essayait d'améliorer d'abord le service envers les populations avant d'aller dans les quartiers voir ce que la population a besoin. Et aussi l'état des routes très compliqué. Et quand les citoyens ont la volonté de remplir ces trous-là, ils sont butés par le fait qu'ils vont être amendés ou bien réprimandés par la mairie. Donc si au moins il y avait plus de liberté, du fait que les citoyens pouvaient eux-mêmes, dans la mesure du possible, arranger leurs routes, ça devait être bien.
Quand il y a un petit trou, au lieu d'arranger ça, très tôt, on laisse que ça devienne un lac avant de chercher à arranger.
Les mairies doivent faire le plan d'assainissement de la ville. Ils doivent sensibiliser les populations par le porte-à-porte. D'abord, commençant de la façon de construire, parce qu'on voit que les gens mettent les maisons jusqu'en route. Certains, c'est parce que la mairie ne les a pas sensibilisés pour dire que telle route sera comme ça. Et à la longue, quand on va détruire, ça fait mal. Ils doivent arranger les routes, même s'ils ne bitument pas, creuser les rigoles pour drainer les eaux. Parce qu'il y a certaines quartiers, on connaît nous tous, que lorsque tu passes là-bas, quand il pleut, tu peux ressortir du quartier avec une maladie. Donc, ils doivent un peu voir tout ça. penser un peu à embellir la ville. Il ne faut pas seulement qu'on regarde les villes, les blancs, que c'est beau à voir et tout, non. Ils doivent travailler pour que nos villes soient aussi belles comme ça là. Pour que quelqu'un soit fier de se balader dans sa ville et dire « waouh, que c'est beau ». C'est un peu ça.
Moi, je me dis que les mairies doivent arranger les routes. Dans les différents quartiers, on voit comment l'accès est difficile parce que les routes sont dégâtées, dégradées un peu de partout. Donc, moi, je me dis que oui, ils doivent commencer par les routes.
La mairie peut par exemple accompagner les jeunes, n'est-ce pas, au niveau des stages. Vous savez, plus les jeunes, la mairie accompagne les jeunes, il y a un impact direct, n'est-ce pas, sur les travaux régaliens que nous organisons au niveau du quartier. Vous savez qu'à la base, il n'y a pas de revenus, que ce soit au niveau des jeunes ou que ce soit même nous hommes, nous les adultes. Nous prenons de notre temps pour le bénévolat. Mais si la mairie peut de temps en temps nous accompagner, n'est-ce pas, ne serait-ce que pour des petits emplois au niveau des jeunes, ce serait une bonne chose.
S'il nous permet de faire les petites formations, que ce soit en hôtellerie, que ce soit en mécanique, parce que déjà à la base, les jeunes ne sont pas déjà formés. Ils ne peuvent pas dire qu'ils veulent améliorer quelqu'un qui n'est pas déjà formé. S'ils peuvent commencer par les formations et parmi ces formations, ils nous octroient les petits parchemins qui nous attestent que nous pouvons déjà être déjà sur le terrain, ça peut être bien. C'est un atout déjà, c'est ce que je pense déjà.
Je me dis qu'en dehors des rigoles, des drains que la mairie peut nous aider à curer, il doit suivre les doléances de la population du quartier pour comprendre le besoin de sa population avant d'agir sur le terrain. Il est vrai que nous faisons partie de notre faiblesse parce qu'il y a des fois l'État s'engage aussi à nous donner un don quelconque au quartier et certains préféraient qu'au lieu de faire telle chose sur tel endroit, il faut faire telle chose plus sur tel endroit parce qu'en faisant sur tel endroit, c'est tel qui bénéficie. Or, nous, la population, nous devons avoir les mains ouvertes sur tout ce que la mairie ou le gouvernement veut faire dans le quartier. Qu'on prend d'abord avec les deux mains, après on va dire au gouvernement qu'après avoir fait ceci, maintenant nous avons besoin de telle chose. Et des deux, les organisations du quartier ont besoin que le gouvernement les assiste dans tous les niveaux, que ce soit le comité d'hygiène, que ce soit les ONG qui nous assistent au quartier dans divers domaines, que ce soit le gardiennage au quartier passé. Des fois, la faiblesse de ces populations vient par manque de petits encouragements que l'État devait leur venir en secours.
Merci à l'équipe de communication du projet AQP pour cet élément, grâce auquel nous avons pu nous faire une idée sur la perception qu'ont les populations de la ville de Douala vis-à-vis de leur mairie. Pour en savoir davantage, nous recevons deux invités, deux dames, qui nous ont fait l'honneur d'être là, malgré les intempéries. Donc nous allons commencer par Nadège Mapigwe. Bonjour Nadège.
Oui, bonjour.
Voilà, vous êtes présidente de l'Association des femmes pour le développement économique, c'est bien cela?
Présente pour l'association des femmes engagées pour le développement du Cameroun.
Ok, donc, AFEDEC.
Ok.
Alors, vous êtes très présente sur le terrain et travaillez dans l'éducation citoyenne des populations. Est-ce que vous pensez que les populations comprennent clairement leur rôle en tant que citoyens vis-à-vis des mairies notamment?
Oui, chers auditeurs, bonjour à vous et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai accepté d'être là parce que pour moi, je pense que vos problèmes sont aussi nos problèmes en tant que des leaders dans nos différentes communautés. Et du coup, je voudrais ici juste aller dans le sens de la question qui m'est posée pour dire que avec ma petite expérience sur le terrain, j'ai comme impression, parce que je ne vous accuse pas, j'ai comme impression que les citoyens eux-mêmes abandonnent aussi leurs droits, leur rôle, ne connaissent même pas parfois leur rôle. Et du coup, leur présence sur le terrain n'est pas parfois perçue. Et cela fait en sorte que, ne sachant pas leur rôle, l'État ne sachant pas comment aussi les intégrer, du coup... Ils ne sont pas présents. Ils ne comprennent même pas, ils ne comprennent pas les tâches qui les attendent. Ils ne sont pas prêts à assumer parce qu'ils ne comprennent pas. Donc il faut juste qu'ils sachent, je pense que petit à petit, ça
viendra. Surtout que nous sommes dans un contexte de décentralisation qui implique que les populations s'intègrent dans le développement de leur environnement. Je vais revenir vers vous.
Quand vous parlez contexte de décentralisation, c'est bien beau de dire, mais déjà il faudrait que la population comprenne ce qui veut dire décentralisation pour pouvoir revendiquer cette décentralisation-là dans les structures qui sont proches à elle.
Ok, on a compris qu'il y a un devoir d'éducation citoyenne. Nous recevons à vos côtés Madame Tondier Catherine, qui est une habituée de ce siège. Bonsoir Madame Tondier.
Bonsoir Blaise, bonsoir chers auditeurs.
Voilà, vous êtes responsable de l'amélioration des quartiers populaires dans le cadre du projet AQP. Et vous nous faites l'honneur d'être là une fois encore. Alors, Madame Nadège Mapigwe faisait remarquer que les populations n'ont pas toujours conscience de leur rôle en tant que citoyens sur les dynamiques qu'ils peuvent initier dans des quartiers pour amener les communes, les mairies à jouer effectivement leur rôle dans l'amélioration de leur cadre. Est-ce que c'est le même sentiment que vous avez lorsque vous êtes sur le terrain?
Alors, est-ce que c'est le même sentiment qu'on a? Je vais dire plus ou moins. Plus ou moins, pourquoi? Parce que dans le cadre du travail que nous faisons, nous mettons un accent particulier grâce au community organizing à rappeler aux populations qu'elles ont un devoir. Elles ont un devoir à jouer, un devoir de citoyen à jouer, celui de suivre les politiques publiques, certes, mais surtout d'être également une force de proposition. Alors, pour rejoindre Madame, je vais dire que quelques-unes des populations n'ont pas conscience, mais peut-être il faut commencer par dire qu'elles n'ont même pas connaissance. Elles n'ont même pas connaissance d'un certain nombre de choses. Alors, notre devoir à nous, organisation de la société civile, notre devoir d'information reste donc d'actualité.
Madame Tondier Catherine, vous m'avez un peu surpris parce que je me disais que vous continuez dans votre envolée. On avait prévu, puisqu'on parle du rôle des mairies dans l'amélioration des quartiers populaires, donc nous avions prévu d'avoir dans ce studio également un représentant de la commune de Douala 3. Donc nous avons effectué toutes les démarches nécessaires pour avoir un invité. On nous a même donné un contact en la personne de M. Takulo, qui est responsable de l'hygiène et de la salubrité au niveau de la commune de Douala 3. Donc jusqu'à la dernière minute, il nous a confirmé de sa présence ici. Mais son siège est toujours là, son siège l'attend. Donc en attendant, nous allons poursuivre notre programme. Et pour poursuivre notre programme, donc, nous allons aborder la prochaine articulation de cette émission. Il s'agit du reportage. Et donc, nous avons tendu notre micro à M. Placide Moudi, qui est expert urbaniste, pour qu'il recadre un peu quel est le rôle de la mairie, qu'est-ce que la loi dit sur le rôle de la mairie dans l'amélioration du cadre de vie dans les quartiers populaires.
Mon quartier, mon toit. Les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit. Les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit. Reportage.
En ce qui concerne la question sur le rôle des mairies dans l'amélioration des quartiers populaires, je vous ai dit que déjà la constitution de 96 dit que le Cameroun était un état unitaire décentralisé, pour dire que la constitution de notre pays donne un rôle prépondérant aux mairies, aux collectivités territoriales décentralisées pour le processus de développement de notre pays. Le code des collectivités territoriales décentralisées de 2019 vient consacrer ce rôle des mairies
notamment en matière d'amélioration des conditions de vie des populations. Et elle dit que les mairies sont garants du processus de développement économique, social et environnemental de leur localité. Donc, pour ce qui est des quartiers populaires, les mairies sont garants de l'amélioration de leur cadre de vie, notamment avec ce que la loi de l'urbanisme leur donne comme pouvoir. Notamment, les mairies sont les principales responsables de l'amélioration des cadres de vie des populations dans les quartiers populaires. Et la loi de l'urbanisme de 2004 donne un certain nombre d'instruments pour intervenir dans ces quartiers, notamment les opérations d'aménagement foncier. Et il y a environ 4 types d'opérations d'aménagement foncier. Il y a la restructuration, il y a la rénovation, il y a l'opération d'aménagement concerté et autres opérations en vue d'intégration des équipements urbains. Donc, l'opération de restructuration vise à intervenir dans un quartier dégradé, anarchique, insalubre en vue de l'intégration des équipements. Il n'est pas question dans une opération de restructuration de raser tout le quartier. Il est plutôt question de trouver les voies et moyens pour intégrer la route, les réseaux d'eau, électricité, les écoles, le centre de santé, le marché, etc. Pour une opération de rénovation urbaine, il est plutôt question d'intervenir dans le quartier pour raser une partie du quartier ou l'ensemble du quartier en vue de le réaménager et de reloger ces populations sur place en ce moment-là en introduisant la voirie, les équipements tels que l'école, le centre de santé, etc. L'opération d'aménagement concerté est une opération de rénovation ou de restructuration, à la seule différence qu'elle est menée en concertation avec les populations. Elle peut être initiée par la population elle-même, un groupe de population, ce qu'ils appellent le GIFU, groupe d'initiative foncier urbain, ou par la mairie, ou par un aménageur institutionnel, ou par l'État lui-même. Maintenant, il y a d'autres opérations qui visent tout simplement à faire passer une route dans le quartier, ou bien à venir trouver de l'espace dans le quartier pour introduire une école ou à introduire un centre de santé si tel est le véritable problème que rencontrent les populations dans ce quartier-là. Donc voilà en gros les instruments que le cadre juridique camerounais donne aux mairies pour intervenir dans ce quartier. Et je voudrais préciser que même si les autres acteurs interviennent, ils le font sous la responsabilité de la mairie.
Voilà, nous venons d'écouter Monsieur Moudi, qui est expert urbaniste. Et donc, Madame Tondier Catherine, je vais me retourner vers vous. Voilà, vous avez écouté l'expert tout à l'heure qui trace le cadre d'intervention des mairies. Vous le relevez toutes les deux tout à l'heure. Il y a une nécessité pour les populations de s'éduquer pour pouvoir véritablement intégrer ce processus de décentralisation-là et jouer leur rôle tout en amenant les communes qui les encadrent à jouer leur rôle aussi. Donc je voudrais savoir, en tant que responsable de l'amélioration des quartiers populaires, les initiatives que vous avez sur le terrain pour amener ces populations à prendre conscience de cet aspect-là.
Alors, dans le cadre de l'amélioration des quartiers populaires, du moins dans le cadre du projet de promotion et de protection du droit au logement décent, le projet ACUPE du CODAS Caritas Douala, nous avons une méthodologie qui combine population et collectivité territoriale décentralisée. Parce qu'effectivement, nous avons compris que rien ne peut se faire sans nos collectivités territoriales décentralisées. Elles sont dorénavant au centre, je vais même dire, elles sont même le pilier. Elles restent le pilier de la véritable amélioration du cadre de vie. Comment nous procédons? Alors, avec la technique du community organizing, nous mettons en place des populations. Nous les amenons à se regrouper. Nous les amenons à identifier leurs besoins, à prioriser, à identifier leurs problèmes, identifier leurs besoins, procéder à la priorisation par la suite, mais on va un peu plus loin que cela. On se dit non, si on va juste déposer l'ensemble des besoins ou des problèmes identifiés auprès de la mairie n'a pas la collectivité territoriale décentralisée, la mairie en l'occurrence, n'a pas forcément la science infuse. Alors, effectivement, dans le cadre de la décentralisation, nous allons un peu plus loin. Nous outillons et nous sensibilisons les habitants des quartiers. Nous leur faisons comprendre qu'elles peuvent, avec l'expérience qu'elles ont, il faut dire quand même qu'il y a un certain background dans les quartiers, qu'elles peuvent d'elles-mêmes élaborer, faire des propositions de solutions aux problèmes qu'elles ont identifiés ou alors aux besoins qu'elles posent et documenter convenablement ces propositions-là pour les déposer ensuite auprès de leur collectivité territoriale décentralisée. Voilà comment nous procédons. Et je peux vous assurer, M. Blaise, les réactions auprès des collectivités territoriales décentralisées en question sont jusqu'ici à féliciter. Tous les groupes constitués au sein des quartiers, il faut dire que nous travaillons dans un quartier par commune d'arrondissement de la ville.
Vous pouvez les citer, Mme Tondier.
OK, d'accord. Nous travaillons avec OYAC 1. OYAC, dans l'arrondissement de Douala 3e, j'aurais vraiment souhaité qu'il le représentant de cette commune-là, et c'est pour ça que je commence par cette commune, soit ici avec nous, parce qu'un important travail est fait à ce niveau-là. Nous travaillons à Mabanda, ça c'est dans la commune d'arrondissement de Douala 4e. Nous travaillons avec Bepanda Yonyon, ça c'est dans la commune d'arrondissement de Douala 5e. Nous sommes à Newton Aéroport, dans la commune d'arrondissement de Douala 2, et nous sommes dans la commune d'arrondissement de Douala 1er, nous sommes à Boniwunda. Voilà dont les quartiers, les blocs des quartiers dans lesquels nous intervenons, s'il faut être véritablement précis, parce qu'il faut aussi le dire, nous n'intervenons pas, vu les moyens et les ressources dont nous disposons, dans tout le quartier en tant que tel. Et je disais donc, pour revenir à mon propos tout à l'heure, que les propositions formulées par les populations et déposé auprès des collectivités, de leurs collectivités territoriales décentralisées respectives, ont jusqu'à présent reçu un accueil, je vais dire, chaleureux. Les groupes de formés dans les quartiers ont été reçus. Il leur a été demandé d'expliquer, de présenter de quoi il s'agissait. Au besoin, elles se sont fait accompagner d'un technicien en la matière pour préciser une ou deux choses. Et je crois que leurs propositions sont sur de bonne voie. Voilà ce que je peux dire jusqu'à présent.
Certains ont même rencontré le maire, les maires de... C'est le cas à Douala 3e.
C'est effectivement le cas de Douala 3e, Douala 4e. C'est pour ça que j'ai dit l'accueil est chaleureux. Et je ne vais pas vous cacher, M. Blaise, que cet accueil chaleureux revigore les populations. Elles comprennent qu'OK, il est possible, il est vraiment possible d'échanger avec l'administration. Leurs propositions comptent. Elles peuvent se faire entendre et croyez-moi, il n'y a pas meilleure motivation quelquefois dans ce type de travail.
Oui, je vais me retourner vers Nadej pour c'est précisément la même question, c'est-à-dire que oui, c'est bon de dire que les populations ont besoin d'être éduquées, c'est bon de dire que les communes ne font pas suffisamment, mais vous aussi en tant qu'organisation de la société civile, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites? On vous sait très ancré avec les gens, avec les femmes, vous travaillez beaucoup avec les femmes. Qu'est-ce que vous faites au niveau des femmes dans les quartiers populaires pour les amener à être mieux éduquées sur les questions de décentralisation, sur les questions de développement de leur environnement?
Comme le disait
Cathy,
je ne vais pas être tellement d'accord avec elle. Surtout parce que je ne vais pas mettre en cause un travail qu'elle est en train de faire. Et tout travail qu'on fait a un processus, a ses difficultés que ça rencontre et a tout un processus, comme je le disais. Donc, je ne vais pas mettre en cause tout ce travail qui est fait, qui est en train d'être fait, qui a un suivi. Je voudrais juste essayer de dire avec fermeté, si je peux le dire, que les institutions que nous parlons, la mairie dont nous pointons du doigt. C'est bien beau que vous ayez fait tout ça, mais je vous assure, je ne sais pas quel est le frein qu'ils ont. Je ne sais pas si le mot population est pour eux ce qu'on appelle parfois le bétail électoral. Vous voyez un peu. Les populations qui, les quartiers, qui dans leur chéquier politique ne sont pas bien regardés, bien aperçus comme des personnes sur qui ils peuvent compter les jours à venir pour leur électorat, comme je suis en train de le dire, sont vraiment mis en minorité dans leur esprit d'apport de solutions. Je vais par là prendre un cas précis. Le quartier Logbesou, qui est dans Douala 5e, mm-hmm. est un quartier vraiment difficile pour la sortie de la ville. Et d'où moi je suis personnellement. On a initié avec les gens du quartier, on a créé un comité de développement. Je suis arrivée dans ce quartier il y a moins d'un an, mais je me suis insérée dans tout ce qui est là parce que je n'arrive pas à rester sans voir un truc et parler. En voulant parler, je suis tombée sur des personnes qui s'étaient déjà constituées en groupe et pour apporter une solution. On a des problèmes d'électricité parce que comme c'est un nouveau quartier, il n'y a pas l'électricité partout. Et en même temps, il n'y a pas d'eau de la SINEC. Il faut qu'il y ait des gens qui ont Camouata. Des forages. Mm-hmm. Oui, et que vous partez. Il faudrait donc prendre le forage, brancher le forage chez une autre personne. C'est chacun qui met son taux de forage qui peut te donner à son prix qu'il veut. Et ce forage-là, qui est-ce qui vérifie pour voir si c'est bon?
La qualité de l'eau.
Qui est-ce qui... Donc, je suis en train de dire ceci. Donc, un quartier comme tu dis, je vais prendre juste ce quartier pour faire un exemple précis et vous voyez jusqu'à quel point ces personnes-là ne connaissent pas eux-mêmes qu'ils ont un rôle à jouer auprès des populations. Parce qu'il ne faut pas seulement dire que la population doit le faire. Vous voyez un peu. Le quartier a donc décidé de commencer par la route. Qu'avant que les pluies ne commencent, qu'il faudrait qu'on racle au moins la route. Alors moi, j'ai cotisé 40 000 francs. Beaucoup d'autres ont cotisé plus que ce que j'ai donné. Comme un auditeur disait tout à l'heure, il est difficile que vous preniez l'engagement d'arranger une route, une servitude, sans leur avis. Alors, il a fallu des pieds et des mains pour qu'on arrive à le faire. Pour le faire, il fallait passer par le maire de la ville. Parce qu'au niveau de la mairie principale, on n'a pas été reçu. Les documents sont posés là-bas. Il n'y a pas eu d'écoute favorable. Vous voyez un peu. Le quartier s'est donc décidé d'aller auprès du maire de la ville. C'est le maire de la ville, dans sa façon de faire, qui a coté le dossier à un service, au service compétent. Le service compétent a donc fait son travail. Et on a donc eu la grâce, si je peux le dire, avec la collecte des habitants. Je vous dis ça, c'est vrai. Il n'y a pas une mairie qui a donné 5 francs. Avec la collecte des habitants, on a fait une collecte. Le montant est connu. C'est dans un groupe bien défini qu'on a donc déplacé ces personnes avec des engins qui ont nivelé, arrangé la route. Quelques jours plus tard, je ne vous dis pas, à Canal 2, pour ne pas citer ce média-là, on a reçu, il y a eu un reportage où la mairie se disait avoir fait un travail et les populations disaient merci à la mairie. Et cette mairie a dit, on fait l'œuvre du chef de l'État. Vous comprenez un peu?
Donc
mettez-vous à la place des populations.
Oui. Cette œuvre oui. Des populations.
Oui, j'ai les preuves. Mettez-vous donc à la place des populations qui sont victimes, ceux qui ont cotisé. Parce que le lambda, citoyen lambda, il ne connaît pas ce qui s'est passé. Mais nous autres qui connaissons et qui étions sur le terrain, comment on va se ressentir en ce moment-là? C'est-à-dire que les mairies eux-mêmes abandonnent leur rôle. Ils ne connaissent pas leur rôle. Donc, le moment où la population fait sa collecte, parce que comme vous étiez en train de parler du développement, de la décentralisation, il se veut participatif. Alors, tant qu'une communauté a pu déceler le besoin, a décidé de faire une collecte entre eux, ça c'est déjà un apport. En allant donner au niveau de la mairie, c'était pour que les choses aillent plus vite. Mais jusque-là, rien. Mais on l'a donc fait. Ils se sont appropriés, mais on a eu un droit de réponse qu'il fallait aller aussi dans la même chaîne et dire que non, c'est nous qui avons fait. Il y a ces deux vidéos-là, ça existe. Vous voyez un peu. Je vais par là dire ceci. Actuellement, donc, il y a le problème de l'électricité. Il pleut, on ne fait que braquer tous les jours. Chez moi, même on est entré, ça fait pas 2 semaines. Parce qu'il y a ce problème-là. Mmh. Nous sommes en train de sensibiliser actuellement que les gens puissent contribuer, qu'on mette des lampadaires solaires. Parce que même les lampadaires Eneo, d'un moment à l'autre, la lumière est partie. S'il n'y a pas de soleil pour dire qu'on est sûr que ça va rester, comment faire? Ce que je dis là, c'est valable pour beaucoup de quartiers dans notre communauté, dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, donc, on a raclé la route. Je vous assure, l'intention première était que, ayant fait cela, la mairie devrait plutôt, en ce moment-là, court-circuiter et nous mettre les pavés. Parce qu'on avait déjà fait le plus dur. Est-ce que la mairie l'a fait? Est-ce qu'on n'est pas allé vers eux? Si on est allé vers eux, c'est pas fait. Donc, pour dire quoi? Pour dire que quand on essaye de parler de centralisation, quand on a des projets en tant que société civile et qu'on pense que la mairie est la porte où on doit aller, je vous assure, c'est un échec même d'aller vers ces mairies-là. Il faudrait que on essaye d'éduquer, comme vous dites, les populations sur leurs droits et leurs devoirs en question d'urbanisme, en question de besoins sociaux. Et qu'en ce moment-là, qu'ils prennent les responsabilités, qu'on laisse les gens dans les quartiers prendre des décisions sur ce qui peut être, permettre d'assainir eux-mêmes leur environnement. Le service d'hygiène des mairies, il fallait qu'ils soient là. Qui me dit ce qu'ils font dans les quartiers? Quand tu as une boutique, vous avez le carnivore, vous payez la taxe d'hygiène, qui dans droit la cinquième dépend de la catégorie que vous payez pour votre boutique. Si vous avez une boutique, vous payez par exemple, je crois, la catégorie C. Supposons que vous payez 20 000 francs de taxes d'hygiène. Dis-moi d'où part cet argent. Dis-moi quelle est l'hygiène qui est faite en retour pour cette personne-là qui a payé. Combien de boutiques en payent cette taxe d'hygiène-là? Et quand tu payes, qu'est-ce qu'on fait? On va fermer les quartiers, on va fermer les boutiques le jeudi jusqu'à 11h. Qu'est-ce qui serait fait? Les gens seront à la maison. Il y a un problème. Le problème ne se situe pas au niveau de faire les courriers et leur déposer. C'est pour ça que je ne voulais pas mettre ce que vous dites en. Mais il y a un problème qu'eux-mêmes, qu'ils intègrent la population dans ce qu'ils sont en train de faire, dans leur activité, et qu'il y ait des budgets alloués. Un quartier qui s'est montré que voici, nous on fait ceci, qu'ils allouent à ce quartier-là, ce qui, le matériel, sans être long. Hein. Il y a par exemple en 2019 ou 2019, où la mairie de Douala 5e, par exemple, est allée dans chaque quartier, 54 quartiers, parce que ça, 54 quartiers, déposer les pelles, les roues. Vous savez où ils ont déposé? Dans les chefferies. Moi, je vais encore vous prendre un exemple très clair. Derrière les sexes, église du 7e jour, il y a une chefferie là-bas. Les jeunes du quartier sont venus vers moi avec leur association pour qu'ensemble, on puisse faire l'investissement humain dans ce quartier avant les pluies. Ils sont allés dans cette chefferie-là pour avoir le matériel. On ne leur a pas donné.
Oui, vous relevez beaucoup de problèmes qui ne sont pas... En fait, je pense que Madame Tondier, c'est des questions qui reviennent aussi avec les populations que vous accompagnez sur le terrain. Donc nous allons revenir sur ces questions-là. On constate quand on vous écoute que ce ne sont pas seulement les populations qui ont besoin d'être formées sur leur rôle, les mairies également ont ce besoin-là. Et je pense qu'il faudrait qu'ils soient suffisamment humbles pour pouvoir le reconnaître et puis rentrer dans une école qui permettra de, quand je dis rentrer dans une école, c'est bien sûr apprendre à faire leur travail convenablement. Donc nous allons revenir vers Madame Tondier, mais là pour sous une autre casquette. Donc vous avez habitué nos auditeurs avec votre chronique. Vous allez souffrir de jouer ces deux rôles, celui des panélistes et chroniqueuses. Et donc là, je vais vous donner la parole pour que une nouvelle réflexion que vous avez faite, notamment sur la décentralisation et ce qu'elle représente comme opportunité pour les populations. Donc je vous laisse le soin de partager avec nous le travail que vous avez effectué.
Décentralisation et amélioration du cadre de vie, voilà le thème retenu pour l'édito de ce mois d'août 2021, Blaise. Plus de la moitié d'entre nous vivons aujourd'hui dans les villes. En 2050, selon les Nations Unies, les deux tiers de l'humanité, soit 6,5 milliards d'habitants, seront urbains, des villes. Des villes encore plus grandes et beaucoup plus peuplées sont donc en gestation dans ce siècle où le développement durable à travers ses objectifs, j'ai nommé les objectifs du développement durable, en abrégé ODD, nous enseigne et recommande la véritable solidarité inter- et intragénérationnelle. Rendre les villes ou localités durables renvoie à créer des opportunités de carrière et d'affaires, un logement sûr et abordable et la construction de sociétés et d'économies résilientes. Pour y parvenir, des investissements dans les transports publics, la création d'espaces publics verts, l'amélioration de la planification et de la gestion urbaine de manière participative et inclusive s'imposent désormais avec acuité. Aujourd'hui au Cameroun, elle est désormais révolue, l'époque où l'État central planifiait le développement d'une localité sans impliquer les populations concernées. L'introduction de la notion de décentralisation dans la constitution camerounaise depuis 1996 avait pour but d'impulser désormais le développement par la base. Une façon de dire aux collectivités territoriales décentralisées « prenez le pouvoir d'une part ». D'autre part, l'article 158 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, promulgué le 24 décembre 2019, transférait les compétences suivantes aux communes: la création et l'aménagement d'espaces publics urbains, l'élaboration et l'exécution des plans d'investissement communaux, la passation en association avec l'État ou la région des contrats plans pour la réalisation d'objectifs de développement, l'élaboration des plans d'occupation des sols, des documents d'urbanisme, d'aménagement concerté, de rénovation urbaine et de remembrement, l'organisation et la gestion des transports publics urbains, des opérations d'aménagement, la délivrance des certificats d'urbanisme, des autorisations de lotis, des permis d'implanter, des permis de construire et de démolir, la création et l'entretien des voiries municipales ainsi que la réalisation des travaux connexes, l'aménagement et la viabilisation des espaces habitables, l'éclairage des voies publiques, l'adressage et la dénomination des rues, places, édifices publics, entre autres. Blaise, c'est dit qu'au Cameroun, l'amélioration du cadre de vie occupe une place dans les missions de la commune qui, elle, est en charge des investissements dans les transports publics, la création d'espaces publics verts, l'amélioration de la planification et de la gestion urbaine de manière participative et inclusive. D'ailleurs, qui mieux que les populations d'un quartier pour prendre soin de leur bien-être? Qui mieux que les populations d'un quartier pour exprimer leurs besoins réels et prioritaires? S'il a besoin de le rappeler, il faut souligner que la collectivité territoriale décentralisée est gérée par des conseillers municipaux qui élisent en leur sein un maire et ses adjoints, les dix conseillers municipaux n'étant autres que les habitants de la commune en question, c'est-à-dire des personnes directement concernées au premier chef par l'amélioration du cadre de vie, l'amélioration de leur cadre de vie. Pour mener à bien ces missions, la commune se dote, peut se doter et doit se doter dans le respect de la loi d'une police municipale qui est comme un bras opérationnel dans la conduite de certaines actions sur le terrain. D'après l'article 218 du Code général de la décentralisation, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. Elle doit, à ce titre et entre autres, s'occuper de la sûreté et de la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, en l'occurrence le nettoiement, l'éclairage, l'avènement, désencombrement, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, etc. En définitive, avec la décentralisation telle que présentée, l'État central dote les populations de voies et moyens de concevoir elles-mêmes des projets en adéquation avec leurs besoins réels et prioritaires, visant ainsi à rendre leurs villes et localités durables. La décentralisation est donc tout simplement une aubaine pour les villes et localités durables, un pilier fondamental pour l'amélioration concertée du cadre des vies des populations. Encore faut-il savoir s'en servir, mais surtout savoir de quoi il s'agit. Merci.
La question reste et c'est pourquoi nous sommes ici. Merci Cathy pour ce travail. Nous allons prendre une pause musicale avant de revenir pour la dernière halte de cette émission. À la technique pour ce choix musical. Nous allons revenir à nos invités. Je vais me retourner vers vous, Nadège. Alors, comment intégrez-vous l'aspect genre et les jeunes dans le déploiement de vos missions sur le terrain au sein des quartiers populaires?
Comment
intégrez-vous l'aspect genre, les femmes, les jeunes, même comme votre association est plus tournée vers les femmes? Voilà, comment vous faites pour les intégrer et les jeunes également pendant votre déploiement?
Oui, ce que nous faisons, juste puisque nous parlons de développement, ça veut dire qu'il faut aller vers des personnes à qui on peut trouver des solutions ou bien d'appui pour accompagner ce que nous faisons. Quand je dis accompagner, c'est dans le sens d'avoir une ressource humaine efficace pour le déploiement sur le terrain. Maintenant, pour intégrer les femmes ou bien les hommes, parce qu'il est bien vrai que nous avons l'idée globale, c'est les femmes. Mais vous savez que les femmes ne peuvent pas faire sans les hommes.
Et, ah, merci de le reconnaître.
Oui. Il y en a qui ne le reconnaissent pas, mais on ne peut pas faire sans les hommes. Pourquoi? Parce que si vous êtes 10 femmes avec un homme, l'homme-là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est observateur sur ce que vous faites. Et parfois, il peut dire un seul mot qui vous permet de voir si vous êtes dans le bon chemin ou pas. Donc, c'est un avis contraire à ce que nous faisons qui nous permet parfois de voir. Parce que même dans nos statuts, même dans le bureau de l'association, nous avons les hommes. Oui. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on fait? On peut avoir une activité. Je vais prendre un exemple simple pour vous montrer comment on procède à l'intégration. Le mois de juillet dernier, nous avons organisé une activité avec les déplacés internes et les réfugiés. Il y avait la RDC, il y avait le Congo-Brazza. il y avait le Tchad et la RCA. Alors, on fait la demande. On dépose au HCR. Le HCR étudie la demande, nous reçoit. Et la cible que nous voulons, comme c'est les femmes, il nous oriente vers la personne qui est en charge des femmes. La personne nous met à disposition ces femmes. Nous faisons donc l'activité avec ces femmes-là. Et nous, la solidarité que nous créons envers ces femmes, parce qu'on ne fait pas souvent moins d'une journée ou deux à trois jours d'activité. La solidarité entre ces femmes-là et nous fait en sorte qu'elles, voyant ce que nous faisons, touchant du doigt l'approche que nous avons pour permettre à nos semblables de se développer, bien de s'extérioriser, de sortir de leur zone de confort, elles sont intéressées et du coup, elles décident d'intégrer notre milieu et du coup deviennent aussi point focal pour certaines dans les différents endroits où elles sont. Donc c'est un peu comme ça le processus d'intégration. Parce que s'il faut qu'on se mette à appeler Cathy, Catherine par exemple, Catherine, nous sommes une association des femmes machin, on voudrait des femmes parmi nous. Si elle n'a pas assisté à une activité, si elle ne nous a pas lu, si elle ne nous a pas écouté, si elle ne nous a pas suivi, ça serait difficile pour elle directement de se lever et nous intégrer notre milieu. Toujours parce que de nos jours, beaucoup de personnes mystifient ce qu'on appelle regroupement. Et du coup, si quelqu'un n'est pas intégré d'une façon où il voit ce que vous faites et perçoit, si ça cadre avec ses pensées ou bien ses idées, la personne ne pourrait pas vous intégrer. Donc, nous procédons par c'est ce qu'on appelle souvent le networking. On a d'autres associations sœurs avec lesquelles, parce que si on a une activité, on voit les associations qui font dans ce que nous faisons. Si nous ne sommes pas en première intention, basée avec des... On n'a pas ça comme nos premiers... Je vais prendre par exemple d'une activité qui concerne les hommes. Si on n'a pas ça dans notre carnaval, et on pense soutenir les hommes quelque part avec une activité comme le TIC par exemple, alors on côtoie une association déjà qui fait dans ça. Ensemble avec cette association-là, on travaille. Et sortant de là, nous attrapons des personnes qui nous ont appréciés et qui ont pensé qu'ils peuvent faire chemin avec nous. Donc, c'est un peu ça le processus d'intégration. Et nous n'oublions pas les institutions dans ce que nous faisons. Parce que comme on disait, Cathy disait toujours tout à l'heure dans le processus de la décentralisation, les institutions sont des premières sont les premières cibles à laquelle chaque citoyen devrait se pointer pour pouvoir déceler ou bien découvrir ce qui est mis à leur disposition. Alors nous travaillons aussi dans notre processus d'intégration avec la délégation des affaires sociales parce que nous travaillons avec toutes les couches, les déplacés internes, les enfants, les orphelins. Quand on a quelque chose qu'on a fait qui concerne une couche, on va vers l'institution qui incarne cette couche-là. Et là, on nous met toujours en collaboration avec le chef de service en charge. Et nous sortons de là avec les notions, avec ce qui est prévu pour cette couche-là. Et ça fait qu'on modifie ce qu'on a prévu parce que ça ne cadrait pas dans la déontologie étatique. Et on essaie de modifier. Et pour pouvoir donner ce qui va permettre à chacun de se retrouver et de sortir de l'activité avec un plus. Et aussi permettre donc à cette institution-là de savoir que dans tel quartier, par exemple, il y a des personnes déplacées, il y a des personnes malentendantes, il y a des personnes ceci. Parce qu'en travaillant dans ces quartiers, on les a associés. Nous travaillons aussi avec la sous-préfecture. Quand on fait n'importe quelle activité, on écrit à la sous-préfecture. Voilà ce qu'on veut faire. Et la sous-préfecture nous donne par exemple leur OK. Parfois, ils sont présents, comme nos dernières activités sont présents. Donc, voilà comment on essaie de faire intégrer les gens. Parce qu'il y a des personnes qu'on a eues, que ce sont des institutions qui nous ont envoyées pour travailler avec eux. Et aussi la délégation de l'artisanat, parce qu'on fait aussi beaucoup l'artisanat avec les jeunes enfants. Merci.
Ah, je pense que la liste, est très longue. Voilà, il n'y a pas que du négatif avec les institutions.
Non.
De temps en temps, ils sont là. Madame Tondier, à la lumière de votre expérience sur le terrain, quels sont les leviers sur lesquels vous pensez que la mairie devrait s'appuyer pour impliquer utilement pour intégrer, si vous voulez, l'aspect genre dans les actions du développement?
Quels sont les leviers.
Mm-hmm. Quels sont les leviers sur lesquels il devrait s'appuyer pour impliquer utilement l'aspect genre dans les actions du développement?
Bon, les leviers sur lesquels il devrait s'appuyer.
Les mairies, hein.
Voilà. Mm-hmm, les mairies. Bon, c'est vrai que je suis peut-être pas bien placée pour préciser les leviers sur lesquels il devrait. Mais avec ce que j'ai comme regard sur les activités de développement, je vais dire que je pense que la mairie ou les mairies, les collectivités territoriales décentralisées devraient mettre beaucoup plus d'accent. Je précise, beaucoup plus d'accent sur la sensibilisation auprès des associations de jeunes, de femmes. Je vais préciser pourquoi cette cible des jeunes et de femmes en particulier. Parce que quoi qu'on dise ou alors quel que soit ce qui se passe dans un quartier, c'est d'abord et toujours ces personnes-là qui sont soit acteurs, soit participants. Bref, c'est toujours les premières personnes concernées, toujours. Les hommes, pour l'essentiel, quittent le domicile tôt le matin et rentrent un peu plus tard en soirée. Donc, le cadre de vie qu'est le quartier, ils ne le vivent véritablement que le week-end à l'occasion d'un 2-0, c'est ça Mike, ou alors des petites activités récréatives. Mais je pense que les collectivités territoriales décentralisées devraient mettre beaucoup plus un accent sur l'accompagnement, sur la sensibilisation et l'accompagnement de ce type d'organisation-là, les organisations de femmes et de jeunes au sein de leur collectivité, de leur zone de compétence. Pour ma part, un autre accent doit être mis sur la sensibilisation tout azimut. La sensibilisation tout azimut à la participation à l'action de développement. Et peut-être je vais aller plus loin à la participation à l'action de la mise en œuvre de la décentralisation. Pour ma part et pour revenir au sujet précédent, si les collectivités territoriales décentralisées mettent à cœur de sensibiliser les citoyens de leur collectivité territoriale décentralisée sur ce qu'elles ont à faire dans le sens de la mise en œuvre de la décentralisation et donc du développement, on aurait un véritable développement participatif. Et je crois qu'on verrait beaucoup plus avec clarté l'amélioration du cadre de vie issu de la décentralisation. Donc, pour ma part, et avec toutes les réserves possibles, je ne suis pas agent communal ou alors, mais de mon point de vue, voilà deux leviers sur lesquels les collectivités territoriales décentralisées devraient s'appuyer, devraient mettre beaucoup plus d'accent sur l'avènement de la décentralisation et l'amélioration du cadre de vie.
Ok, merci Madame Tondier. Je pense que nous allons boucler ce programme. Merci à vous Nadège Mapigou d'être venue. Je dois rappeler que vous êtes présidente de la FEDEC.
Oui, merci aussi à vous de m'avoir invité, mais je ne sortirai pas de ce studio sans toutefois insister sur ce que Cathy est en train de dire. Les mairies doivent vraiment accompagner les associations. Le seul levier sur lequel ils peuvent s'appuyer pour être plus proches des populations quand nous sommes en train de parler, pour améliorer le cadre de vie des populations, c'est les associations. Ces associations, là, ce que moi je veux aussi dire, que les associations doivent tout faire pour arriver vers les mairies
et se faire enregistrer
vers les mairies pour qu'on sache déjà qu'ils existent, pour permettre donc aux mairies aussi de mettre sur pied des calendriers de telle façon que dans chaque quartier, une mairie a un point focal qui répond aux aspirations des quartiers et qui transporte les besoins de ces populations vers cette mairie-là. Et cela ne peut que se faire par des associations.
Voilà, merci. Je pense que nos auditeurs ont compris. Pour pouvoir remplir les populations des quartiers populaires, je vous l'ai dit, pour pouvoir remplir leur rôle, il faudrait qu'elles se mettent en association et qu'elles se rapprochent des institutions pour pouvoir effectivement remplir leur rôle. Merci Madame Tondier d'être venue.
C'est toujours un plaisir d'être là et de partager.
Ok, je voudrais également dire merci à Yann Gouet et Sylvie Saadaï, notre stagiaire, qui ont participé à la préparation de cette émission. Je voudrais remercier également le reste de l'équipe projet AQP qui n'est pas ici avec nous. Merci à Franck Mouna qui s'est occupé de la technique. Une fois de plus, merci à nos auditeurs pour leur confiance. Blaise Mitty pour vous servir. Rendez-vous au mois prochain.